Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Massirika.
À la une de l'actualité ce midi en Ituri, 9 personnes ont été tuées par une foule en colère jeudi après-midi à Komanda. Des habitants protestaient contre la montée de l'insécurité attribuée aux présumés rebelles ougandais de l'ADEF. Après le Sénat, ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale a prorogé hier jeudi et pour la troisième fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Les députés nationaux ont également examiné et adopté 5 procès-verbaux des séances précédentes. Notre invité, c'est le professeur Kamana. Ce penseur congolais basé à Goma, au Nord Kivu, pense que la conscience collective sur la souveraineté du pays est une réalité qui s'est construite 61 ans après l'indépendance du pays. Madame, messieurs, bonjour. En Ituri, 9 personnes ont été tuées par une foule en colère jeudi à Komanda, un centre commercial situé à 75 kilomètres au sud de Bounia, en territoire du Rumu. Des habitants protestaient contre la montée de l'insécurité attribuée aux présumés rebelles ougandais de l'ADEF. Selon la société civile locale, les manifestants ont soupçonné les victimes d'être de connivence avec les rebelles. D'autres ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des casques bleus de la MONUSCO. Le point de la situation avec vous, Martial Kizébiamongou.
C'est vers 15h locale que des jeunes en colère, munis de trocs d'arbres et de bâtons, sont descendus sur l'artère principale des Komanda, sur la route nationale numéro 4. Après les regroupements au rond-point, les seuls carrefours qui relient Kisangani, Bounia et Beni, ces jeunes en colère se sont dirigés au quartier Vingazi, précisément sur l'avenue Kipeayo, pour rechercher des personnes soupçonnées d'être de mèche avec des présumés ADEF de la région. Selon la société civile locale, 4 maisons ont été saccagées, dont une brûlés par les manifestants. 9 personnes qui s'y trouvaient ont été lynchées à mort. Parmi les victimes, cette structure citoyenne parle de 5 hommes, dont un enfant de 17 ans et 4 femmes, ce qui a créé une panique dans les milliers. D'autres civils qui étaient recherchés par les manifestants pour subir les mêmes sorts ont été sauvés grâce à l'intervention des casques bleus bangladais qui les ont conduits aux forces de l'ordre. D'après les sources sécuritaires, des enquêtes sont en cours pour appréhender les auteurs de cette justice populaire. Bounia, Martial Kiza Biamungo, Radio Okapi.
On reste en Ituri où 13 miliciens Maïmaï, des rebelles ougandais de l'ADEF tués et 4 armes récupérées. C'est le bilan des affrontements entre les FARDC et ses 2 groupes armés dans les villages de Bwanasura et Ndimo au sud du territoire du Rumu. Selon le porte-parole de l'armée nationale, ces opérations militaires se poursuivent pour neutraliser ces miliciens. Des organisations non gouvernementales locales déplorent le déplacement massif de la population de plusieurs localités, mais aussi la perturbation du trafic sur la route nationale numéro 4. À Bounia, Isaac Remoyope.
C'est depuis une semaine, jour pour jour, que des affrontements sont signalés au village d'Ndimo, Bwanasura et Ofai, au sud de Dirumu. Ce vendredi, les miliciens Maïmaï ont tenté de faire incursion à Bwanasura. Ils ont été repoussés par les forces loyalistes. Hier jeudi, des combats se sont déroulés dans la même entité entre les deux parties. L'ONG de défense étroite de l'homme CRDH indique que 8 miliciens ont été neutralisés par les FARDC. Le mercredi, il y a eu 2 attaques simultanées des rebelles ADEF à Ndimo et des Maïmaï contre une position des FARDC à Bwanasura. Ils ont été mis en déroute par l'armée et 3 ADEF ont perdu la vie lors des échanges des tirs. Pour ces 2 derniers jours, les porte-parole de l'armée en Ituri dresse un bilan provisoire de ces opérations militaires des 13 morts du côté de l'ennemi et 4 armées récupérées. L'UNGCRDH indique que les restes des habitants vident les milliers depuis jeudi à cause de la persistance de l'insécurité. De nombreux transporteurs ont peur de s'engager sur ces tronçons pour ne pas tomber dans l'embuscade de ces hommes armés qui ont incendié un véhicule mardi à Ofai. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Butembo, dans le Nord Kivu, les agences de voyage qui empruntent l'axe routier qui va de Butembo à Ituri ont suspendu le trafic pour une durée de 3 jours à partir de ce vendredi matin. Ils protestent contre la mort des 6 personnes en l'espace de 2 jours sur ce tronçon par les rebelles ougandais de l'ADEF. Parmi les victimes, l'on note des passagers et des chauffeurs des véhicules. Le président de cette association indique à Radio Kapi que plusieurs véhicules et motos ont été également incendiés. Jimmy Munguluma au micro de Florida Kahambu.
Bon, on a perdu des chauffeurs, l'autre des fusseaux et l'autre des voitures. On a 6 passagers et 6 véhicules brûlés. On peut compter même des cinquantaines de motos incendiées. Ça l'espace de 2 jours seulement. Depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, les morts sont restés là. On a réussi à récupérer le corps de notre chauffeur. On l'a amené jusqu'à Beni. On va l'enterrer aujourd'hui. Et d'autres passagers, on a essayé de les acheminer à l'hôpital de Butembo. Bon, c'est comme si ce sont des embuscades. On peut quitter de Luna à Ndaria sans embuscade. On arrive à Ndaria, on trouve des embuscades. On arrive à Komanda, on trouve des embuscades. Alors toute la route est vraiment insécurisée. C'est pour cela qu'on vient de suspendre nos activités dans cet axe-là pendant 3 jours. Nous sommes mal à l'aise. Chaque jour, des informations par nos clients et des chauffeurs. Alors nous sommes menacés parce que quand les véhicules sont brûlés, il y a des marchandises des gens. C'est comme si nous sommes complices. Là où il y a l'insécurité, on envoie aussi des véhicules. Alors là, on vient de se réserver pour puisse attendre l'ordre de l'exécutif provincial. Bon, le gouverneur de Litour et province se trouve au niveau de Litour.
Et puis, la chef de la MONUSCO séjourne en ce moment à Uvira, depuis hier jeudi, au sud de la province du Sud Kivu, dans une tournée effectuée à Mikenge, secteur d'Itombwe, dans les territoires de Mwenga, et à Bijombo, dans celui d'Uvira. Bintou Keïta a rencontré les représentants des déplacés et les leaders communautaires. Son adjoint chargé de la protection et des opérations, Kassim Diagne, et le commandant de la force onusienne, le général de corps d'armée, Marcos da Costa, sont du voyage. Le compte-rendu de Fiston Goma Mayabala.
La délégation a été informée de la situation sécuritaire actuelle caractérisée par l'activisme des groupes armés. Les déplacés internes et les leaders communautaires ont recommandé le plaidoyer de la MONUSCO pour les renforcements des FRDC dans les zones considérées comme les plus chaudes des hauts plateaux, notamment Mikenge, Bijombo et Minembwe. Le travail de la MONUSCO pourrait consister à sécuriser les déplacés vers les zones agricoles, les sources d'eau, ainsi que dans les sites où ils reconstruisent leurs habitations. L'objectif est d'empêcher d'éventuelles attaques des groupes armés contre les déplacés. Les leaders locaux, de leur côté, expriment leur satisfaction pour les efforts de la MONUSCO pour réconcilier les communautés en conflit. La patronne de la mission onusienne, Bintou Keïta, a souligné de son côté que le dialogue pour la cohésion sociale mérite d'être organisé à condition qu'il soit un dialogue sincère sans être forcé. Les parties prenantes sont ainsi sensibilisées à continuer de cultiver plus près des zones sécurisées et c'est jusqu'à ce que les FRDC renforcent leurs troupes dans les zones reculées, a souligné l'équipe de la MONUSCO. Le ministre provincial de l'Intérieur, Lobandiloa Singabo, a promis de plaider auprès de la hiérarchie des FRDC pour augmenter la force pour une meilleure protection des habitants. D'Ouvira Fiston Momayaba, la radio Capi.
Revenons ici à Kinshasa où après le Sénat, l'Assemblée nationale a prorogé hier jeudi pour la 3e fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les députés nationaux ont également examiné et adopté 5 procès-verbaux des séances précédentes. Un reportage de Michel Kifindangoy.
S'appuyant sur l'article 144 alinéa 3 de la Constitution et face à la COVID-19, l'Assemblée nationale décide de continuer à siéger, mais en format réduit de 60 députés. Jacques Joly.
L'option d'aller en vacances ne cadre pas avec la Constitution. Et nous avons aussi rejeté l'option de donner habilitation au gouvernement sur la question de la prolongation d'état de siège. Nous n'avons pas les outils technologiques, les plateaux nécessaires pour participer à partir de Boindé ou de Défalé au débat, mais nous faisons confiance à cette équipe-là pour prolonger notre place.
Cependant, les députés du FCC n'approuvent pas la proposition de déléguer leur pouvoir au bureau et à la conférence des présidents. Fidèle Likinda.
On ne peut pas prendre une résolution qui viole la Constitution. Chacun de nous ici a bâti campagne. Et ce n'est pas parce que vous êtes membre d'une commission du bureau et qu'on va décider à lier les places de moi, Likinda, qui représente mon territoire du Kenya. Qu'on ne vote pas cette résolution moyennant amendement.
Une commission a donc été mise en place pour amender cette résolution portant fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Des journées portes ouvertes sont organisées depuis lundi dernier à l'auditorat militaire du Katanga à Lubumbashi précisément. Objectif visé, expliquer le rôle et le fonctionnement de la justice militaire à la population locale. Une initiative saluée par plusieurs personnes qui ont pris l'engagement d'en faire large écho. Au regard de l'engouement observé, ces journées portes ouvertes vont donc continuer jusque la semaine prochaine. Rassure l'auditeur
supérieur du Katanga. Une correspondance de Jean Gandou.
Plusieurs personnes défilent pour se faire expliquer le rôle et le fonctionnement de la justice militaire. Au cours des échanges, l'auditeur supérieur militaire indique que depuis 3 mois qu'il est en fonction, il a trouvé dans son office une centaine de plaintes qui ne relèvent pas de sa juridiction.
Nous, on ne s'occupera que des infractions commises par les policiers, les militaires, les bâtisseurs de la nation pour des infractions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, ou les civils qui commettent des infractions au moyen d'armes de guerre, les civils qui incitent les militaires à commettre des infractions, ou des civils qui adhèrent à des mouvements insurrectionnels. Nous devons rester dans les limites de nos compétences.
Parmi ceux qui se sont présentés, il y a un membre de la Ligue des chauffeurs de taxi-moto.
Auparavant, nous étions ignorants parce que nous étions vraiment habités à plusieurs intimidations militaires. L'auditeur supérieur vient de nous faire voir comment l'auditorat militaire fonctionne. Autrefois, on a eu arrêté plusieurs de nos membres par ignorance. Nous venons ici, on nous taxe de fortes mêmes amendes tant que nous sommes civils.
Le vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi, Monseigneur Denis Moto, salue aussi cette initiative.
J'étais édifié. Il y avait les zones d'ombre qui étaient à moi. J'ai compris.
Notons que, d'après le colonel Jean Litagoro, ces journées portes ouvertes seront aussi organisées dans les juridictions militaires de son ressort. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans l'actualité, il y a aussi cette polémique au Sud Kivu autour des frais de participation aux examens d'État de cette édition. Les inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique menacent de boycotter ces épreuves si ces frais sont revus à la baisse. Selon eux, il ne revient pas du tout aux députés provinciaux d'organiser ces examens d'État en fixant les frais à $15 américains par élève. Il revient au gouverneur de province de signer un arrêté fixant le prix définitif. À Bukavu, Cynthia Bachizi.
Outre des soubassements juridiques, les inspecteurs disent avoir fixé le montant des $40 sur base d'un planning avec des lignes budgétaires claires et détaillées. Moïse Maroumé, rapporteur adjoint du comité provincial Sud Kivu 1.
L'Assemblée provinciale instituant les $15, en tout cas, elle ne s'était pas fiée à une prévision budgétaire quelconque. Le comité provincial, avec les techniciens à tous les niveaux, on a tablé sur une prévision budgétaire réelle. Par exemple, les transports des mâles de Kinshasa, Goma, Goma-Bukavu, avec les coins les plus isolés. Il y a aussi le paiement des intervenants.
De leur côté, les parents ne comprennent pas la décision de l'Assemblée provinciale et se rangent du côté des inspecteurs. Moulemans à Jean-Paul, représentant d'une association des parents.
Que les politiciens ne nous vendent pas divan. Lors de l'élaboration de la prévision budgétaire, nous parents, nous étions là. Tout compte fait, on a abouti à $40. Donc, en dessous de 40, on ne saura pas organiser ces épreuves, sinon ce sont nos enfants qui en pâtissent.
La balle est aujourd'hui dans le camp du gouverneur de la province du Sud Kivu. Contacté, ce dernier affirme vouloir réunir toutes les parties prenantes dans cette crise afin de trouver un consensus. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Dans le même registre au Nord Kivu, le député provincial Kambale Matofali appelle le gouverneur de province à revoir les frais de participation aux examens d'État. Cet élu du territoire de Butembo trouve exorbitant la somme de 140 000 francs congolais exigée par les écoles. Il le dit à Sifa Maguru.
Il y a les parents des territoires de Nyiragongo, mais aussi ceux de Goma, qui nous ont dit, vous avez vu vous-même ce que le volcan a fait de nous, de notre économie. Mais comment est-ce que vous croyez que nous allons trouver l'argent, autant d'argent pour payer? Parce que dit-on qu'il y a des écoles qui commencent à exiger un montant allant de 100 000 à 140 000 francs congolais pour participer aux examens d'État. Le modèle que je venais de montrer au gouverneur de province, je lui dis au niveau de Sud Kivu, l'Assemblée provinciale avec l'exécutif provincial ont pris un accord que les examens d'État, en tout cas les frais là, doivent être réduits. L'année passée, c'était $25 pour chaque participant. Voilà pourquoi nous venons de saisir le gouverneur. Compte tenu de la situation sécuritaire de notre province qui a appauvri notre population, compte tenu du volcan Nyiragongo qui a aussi touché l'économie de certains parents, mais aussi élèves de cette province, surtout ceux de Nyiragongo et de la ville de Goma, nous venons de proposer au gouverneur de province à fixer un montant de $25 pour chaque participant au lieu de $45 ou $50.
Actualité internationale.
Le message de paix du pape François pour les Libans. Une journée de prière et des réflexions profondes s'est déroulée jeudi soir au Vatican en présence des responsables des différentes confessions chrétiennes du pays. Et il s'est achevé par une prière œcuménique dans la basilique Saint-Pierre à Rome, au cours de laquelle le souverain pontife a vivement condamné les calculs politiques et les ingérences qui prennent le pays en otage. Le Niger est devenu ces jours-ci un îlot démocratique dans les chaos sahéliens et il faut impérativement défendre le Niger pour montrer qu'un pays démocratique peut vaincre le terrorisme. Voilà le message que le gouvernement adresse à ses principaux partenaires au lendemain des bouleversements au Tchad et au Mali voisin. Le ministre nigérian des Affaires étrangères est à Paris pour une mission officielle.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Kamana, ce penseur congolais basé à Goma, au Nord Kivu, pense que la conscience collective sur la souveraineté du pays est une réalité qui s'est construite au fil des années. Il s'entretient avec Jules Ngalwamona.
Godefroy Kamana, bonjour.
Bonjour.
61 ans après l'indépendance, est-ce qu'il y a eu quelques progrès dans le domaine politique? Quels sont-ils ces progrès? Et est-ce qu'il y a des défis à relever toujours dans ce domaine politique? Lesquels?
La première chose qu'on doit dire, c'est le surgissement d'une conscience politique auprès de nos populations comme auprès de nos autorités politiques.
Est-ce qu'il y a des cas concrets d'une quelconque avancée qui a été faite vis-à-vis de nos dirigeants? Parce que la politique, c'est aussi nos dirigeants.
Oui. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vous diront que nous sommes sous l'autorité de quelqu'un d'autre que nous-mêmes.
Même pas le Rwanda, dont on dit souvent que c'est lui qui impose les dirigeants.
Il y a 10 ans, quand on parlait du Rwanda, on parlait des États-Unis qui imposaient au Rwanda un ordre à imposer au Congo pour les intérêts américains qui avaient besoin d'avoir un Congo disloqué, un Congo qui obéirait aux ordres des États-Unis. Mais aujourd'hui, vous voyez quand, par exemple, le président Tshisekedi et le président Kagame se parlent et commencent avec un discours, nous oublions le passé est passé, et regardons l'avenir, ça veut dire... Nous sommes maintenant dans la situation où ce n'est pas le passé qui déterminera notre avenir, mais ce sont les relations que nous nouerons nous-mêmes entre nous qui décideront de ce que nous serons. Et un Congo qui parle en ces termes-là, ce n'est pas un Congo qui dépend de quelqu'un d'autre, c'est le Congo des Congolais. Et notre bataille pour l'indépendance politique du Congo, c'était la bataille du Congo aux Congolais, du Congo pensé par les Congolais, voulu par les Congolais, avec la responsabilité des Congolais comme créateurs de leur avenir. C'est un changement d'imaginaire énorme, rien que dans la manière dont nous nouons les relations avec nos voisins aujourd'hui. Mais dans la perspective de pouvoir agir avec ses voisins au nom de l'Afrique. Parce que le Congo, c'est le Congo pour l'Afrique. Notre vocation, comme disait Lumumba, il disait, si Dieu nous a donné un pays si grand, c'est pour que nous ayons le sens de la grandeur. Vous imaginez une Afrique où le Congo, au cœur de ce continent, aurait les responsabilités qui sont les siennes pour guider la politique africaine, guider l'économie africaine, guider la culture africaine, guider l'éducation de l'Afrique et nouer avec nos voisins des liens qui soient des liens de pays responsables. C'est ce qui s'est fait entre le Congo et le Rwanda. On voit très bien ce que ces relations doivent être parce qu'il y a un axe Kigali-Kinshasa qui serait semblable à l'axe Paris-Berlin, par exemple. Oui. Donc, c'est-à-dire des pays qui ont la responsabilité de donner une unité à l'ensemble du continent et une force et une puissance capable de s'imposer. Le Congo, c'est un pays de puissance pour l'Afrique, et tous les pays qui peuvent nouer avec le Congo des relations de puissance entrent dans la dynamique de l'avenir. Ça, c'est notre force actuellement.
Professeur Kamana, merci beaucoup.
Merci.
Notre invité, c'était le professeur Godefroy Kamana, ce penseur congolais basé à Goma, au Nord Kivu, qui pense que la conscience collective sur la souveraineté du pays est une réalité qui s'est construite 61 ans après l'indépendance. Il était interviewé par Jules Ngalawamona. Il est 12h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Ben Kabamba. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net et sur les différentes plateformes numériques dans un court instant. La page des sports, le rendez-vous de Dieudonné Kabéangalula.